Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Et oui, vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Et donc bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission où nous recevons Benjamin Chalut. Benjamin Chalut, bonjour.
Et bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous êtes un jeune essayiste, vous avez été chaudronnier soudeur, puis vous êtes allé dans l'industrie un peu plus lourde, l'aéronautique, le naval. Vous avez une formation de BTS technico-commercial. Et vous publiez donc, vous avez publié un essai, un deuxième arrive d'ailleurs. Le premier essai, c'est La civilisation du geste, quand le savoir-faire façonne le destin des peuples, aux éditions Eurésis, dans la collection Travail et Philosophie. Alors votre thèse est assez simple, pardon, à énoncer, mais assez vertigineuse à déployer. Le savoir-faire, ces gestes maîtrisés, ces compétences transmises de génération en génération, bah, c'est pas un détail de l'histoire économique, c'est une ossature. Nous sommes en train de perdre cette ossature, non pas par accident, par idéologie, par mépris du travail manuel, par triomphe d'une rationalité gestionnaire froide qui a dissous l'individu dans l'équation. Alors on va parler de tout ça, mais vous savez, nous avons une petite tradition dans l'émission, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
Taisez-vous !
Ah, c'est comme ça, nous avons les moyens de vous faire parler.
Benjamin. Si Emmanuel Macron était un meuble, ce serait...
Un tabouret.
Un tabouret.
Ah. Ouais, tout à fait.
Si Jean-Luc Mélenchon était un outil de menuiserie.
Une scie circulaire.
Ah, on voit bien. La plus grande invention artisanale de l'humanité.
Incontestablement le compas.
Ah, pourquoi ?
Parce qu'il est universel à de nombreux métiers de fabrication... Et en même temps, vous pouvez faire un nombre de tâches liées à la géométrie et à la prise de mesure qui est incommensurable.
Le livre que tout artisan qui se respecte devrait avoir lu.
Alors, Métier d'art et savoir-faire de Francesca Cominelli.
Et est-ce qu'on peut le lire si on est partisan ?
Si on est partisan, bien sûr.
La mesure la plus absurde prise pendant la crise sanitaire contre les artisans ?
Le confinement.
Oh, mais ça, c'est pour tout le monde.
Oui, mais ça a été gravissime pour beaucoup d'artisans.
C'est-à-dire que les artisans n'avaient pas le droit de travailler pendant la crise, pendant le confinement ?
On a freiné beaucoup de chantiers, beaucoup d'artisans se sont retrouvés dans des situations de retard de carnet de commandes qui ont été fondamentaux. Enfin, ça a été vraiment très compliqué pour beaucoup de métiers. Dans le bâtiment, entre autres, ça a freiné très fortement l'activité.
Question plus sérieuse, si Bruno Le Maire était un meuble Ikea ?
Je pense qu'on... Alors, je suis allé faire mes petites recherches, je penserais au lac. Vous savez, cette table basse à 10 euros qui se gondole, qui se raye, qui perd ses pieds, qui supporte mal le poids. Creuse de l'intérieur, littéralement rien dedans, donne l'impression de solidité, mais s'effondre au premier vrai usage. Donc vendu comme une solution utile à personne et pourtant omniprésente pendant des années.
Le voici rhabillé, le pauvre Bruno. Vous êtes plutôt tournevis ou marteau ?
Marteau, je suis chaudronnier donc.
Votre pire cauchemar ? Un open space jusqu'à la fin de vos jours ou un consultant McKinsey comme voisin de palier ?
Je dirais un open space sans fin, mais la question reste compliquée.
Le mot anglais utilisé dans l'entreprise qui vous donne envie de déclencher une nouvelle guerre de 100 ans ?
Team building.
Et enfin, le génie français de l'artisanat, c'est ?
La capacité à exalter l'excellence.
Merci Benjamin Chalut. Alors, votre ouvrage, La civilisation du geste. Première question, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot geste ? C'est quoi la définition du geste ?
Le geste, ça part des mains. En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que tout produit qui est au centre de nos échanges économiques, il est passé à un moment, qu'on le veuille ou non, par la main, ou du moins par l'outil. Et chez André Leroy de Gouran, on retrouve aussi cette idée, par l'outil qui est l'extension de la main. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'acte de créer une production, de créer un produit, c'est avant tout un geste ou un mouvement qui permet de créer un produit.
Et alors, le savoir-faire, pareil, parce que c'est un mot qu'on utilise, mais on n'arrive pas vraiment à le définir. Et pourtant, c'est votre définition du savoir-faire, c'est un peu le fil rouge de tout votre livre. Alors, comment définir le savoir-faire ?
Oui, tout à fait. En fait, bon, j'en profite, mais quand vous tapez sur Google le mot savoir-faire, vous avez 93 millions de résultats. Donc, on a vraiment un savoir-faire washing, surtout avec le Made in France aujourd'hui. Tout le monde se revendique d'un savoir-faire. Donc, on a un mot qui commence à tomber dans les lieux communs. Alors, si on devait donner une définition, d'après moi, de ce qu'est le savoir-faire, c'est cette capacité, en fait, à l'homme d'extérioriser une pensée et de créer en fait un projet. Voilà. C'est-à-dire à un moment, j'ai l'intention de fabriquer une pièce de chaudronnerie, l'idée même technique vient de mon esprit, et le passage en fait à l'acte, le passage à la fabrication, c'est le savoir-faire. Et tout ça n'est que l'exaltation en fait de une continuité historique du développement technique. C'est un empilement de techniques avec l'expérience et avec la transmission qui amène finalement à un acte dans l'instant qui permet la fabrication.
Alors, parlez un peu, on va parler un peu de vous. Comment on devient chaudronnier?
Comment on devient chaudronnier? Ben, moi, je suis passé par lycée professionnel Roger Clostre à Clermont-Ferrand. Ben, j'ai fait un bac pro, tout simplement. Donc, ça se fait assez bien, j'ai envie de dire. Donc, oui, je suis passé par cette filière-là. Et puis après, j'ai arrêté les études pendant quelques années où j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, dans l'aéronautique, le naval et l'industrie lourde.
Alors, mais c'est, on arrive par hasard ou c'est quelque chose qui vous a toujours plu, vous avez choisi cette filière, ça marche comment?
Alors moi, j'ai eu la chance de la choisir, ce qui m'a valu les foudres de l'éducation nationale au moment où j'ai fait mes choix en fin de troisième, parce que moi, j'avais choisi cette filière, c'est-à-dire que j'ai eu la chance en fin de troisième, maintenant on fait des stages, découvertes, et j'ai fait ce stage dans une entreprise de chaudronnerie. Je connaissais pas la chaudronnerie, j'ai poussé la porte. Et il se trouve que bah, j'ai dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'était évident. Et malheureusement, ce n'est pas le choix de bon nombre de jeunes et je le regrette.
Mais peut-être que vous
Mais
pouvez
pour moi,
le
ça a été un
raconter
frein.
en fait ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'être chaudronnier.
Ouais, le chaudronnier, en fait, il ne fabrique pas des chaudrons. Ceux qui fabriquent des chaudrons, c'est
Bah
les
zut alors.
dinamos.
Bah c'est ça qui m'intéressait, moi c'est un chaudron quoi.
La fabrication d'un chaudron, c'est de la dinanderie. Voilà, on a rien à voir. Enfin, rien à voir. On a bien des bases communes. Mais en fait, le chaudronnier, c'est la fabrication de pièces métalliques pour l'industrie, entre autres. De pièces métalliques qui ont. Et en fait, ce qui fait la particularité de la chaudronnerie, c'est la mise en forme de la tôle pour en faire un volume. Voilà. On fait des cylindres, on fait des carter, on fait tout un tas de pièces. Mais la base initiale du métier de chaudronnier, c'est cette capacité de mettre une feuille de tôle, en fait, si vous voulez, une feuille de métal en volume.
Et alors, et c'est aujourd'hui, vous, quand on apprend le métier, on le fait. Je suppose qu'il y a quand même encore des machines, même si on parle d'artisanat. Vous faites pas tout ça au marteau et avec une cheminée pour faire chauffer la tôle. Mais
Oui.
quand on apprend, je suppose qu'on parle du départ. Donc, est-ce que vous refaisiez tout quand on est étudiant ou quand on se forme à ce métier-là, est-ce que vous commencez en effet par la tôle avec une flamme et un marteau ou vous arrivez directement sur les grands moyens avec les grosses machines?
Non, en fait, si vous voulez, la base du métier, c'est le traçage. Alors pour donner une certaine image en fait aux auditeurs qui nous écoutent, on fait ce qu'on appelle un patron sur la tôle. Hein. Vous voyez, quand vous voulez faire une cocotte en papier, vous faites un patron.
Comme pour les
Et
vêtements, en
ben
fait.
voilà, exactement. En fait, vous faites des patrons et ce patron, on le trace. Et en fait, c'est la base du métier. En fait, hein, c'est le traçage. Donc on passe beaucoup de temps déjà à apprendre le traçage parce qu'il faut visualiser en 2D ce qu'on a l'intention de mettre en 3D, enfin de fabriquer en 3D. Donc c'est vraiment la vision dans l'espace, la géométrie qui est quand même au centre de ce métier. Faut avoir quand même une appétence pour le Pythagore et pour Thalès, pour cosinus et tangente pour je fais appel à certaines mémoires de nos de nos cours de mathématiques, mais voilà,
Aucun souvenir. Voilà, c'est fou.
on est voilà, mais et on commence déjà par ces étapes-là. Et puis après, il y a l'assemblage, le soudage, le pliage, etc. Tous ces outils de mise en forme et d'assemblage.
Et alors, et après, donc vous fabriquez cela, et c'est une petite partie d'un grand ensemble. Et donc, quand on bosse dans l'aéronautique, quand on bosse dans le spatial, quand on bosse dans les bagnoles, en fait, c'est voilà, c'est vous faites partie d'un rouage, et la pièce que vous fabriquez va être une pièce indispensable dans un truc, dans un espace plus grand qui peut être un avion, une fusée, une voiture, un sous-marin. C'est
Tout
bien
à
cela.
fait. Exactement. Exactement. Alors après, vous avez des petits ensembles. Vous voyez, moi, je travaillais sur l'aéronautique. On a des pièces qui font pas plus de, des fois, 5, 6, 10 cm. Vous voyez. Et de l'autre côté, quand je travaillais dans le naval, on assemblait 89 blocs entre 2500 et 3500 tonnes. Voilà, bon.
Et c'est le même métier. Alors, il y a
Et
dans
c'est le même
votre
métier.
livre une colère sourde contre ce que vous appelez l'homo economicus, c'est-à-dire cet homme qui est réduit à une fonction dans une équation. Mais alors, d'où vient ce mépris justement pour le technicien, pour l'homme de métier? Ça, vous le datez de quand et comment ça se traduit et pour quelles raisons?
Je pense que dans les années 80, force est de constater que j'étais pas né, mais j'ai pu me documenter et assez bien étudier la question. Mais dans les années 80, il y a eu la volonté à un moment de dire les métiers des mains, eh ben c'est sale, ça crée des ouvriers qui sont aliénés, c'est pas bien. Il faut absolument que on se sépare de l'industrie. On a les premiers discours autour aussi de l'écologie politique qui commence à arriver. Donc en plus d'être aliénant et de créer des ouvriers, et ben en plus c'est polluant. Donc il fallait vraiment qu'on détruise l'industrie. Et on a eu une certaine idée, c'était tertiariser la société et faire de la France le pays siège social. Donc, pendant des années, on a laissé s'effondrer l'industrie, le primaire, le secondaire. Et évidemment, tout ça s'est accompagné en fait d'un mépris des métiers manuels qui était consubstantiel en fait à ce déclin et à cette volonté de se séparer de l'industrie. Et on a dit, bah, on va former tout le monde sur du bac plus 5. On va envoyer tout le monde dans les filières générales et les filières littéraires. Et on va faire un pays qui tournera autour du commerce et du tertiaire. Et en fait, on voit vraiment que y a vraiment une dévalorisation complète de ces métiers à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on voit aussi arriver le terme voie de garage dans les métiers manuels. L'idée que bah, seuls les plus mauvais à l'école, c'était la voie pour les mauvais. Hein, voilà.
Alors que la voie de garage, maintenant on dit ça pour la socio. Romain Aixon-Garce.
Non, mais c'est pour donner mon petit témoignage personnel. Mais moi, j'ai un très bon ami comme ça qui a voulu faire médecine et puis qui est devenu luthier finalement. Et qui a repris des études où il était, je sais pas, il devait avoir 23, 24 ans avec des gens qui avaient juste le bac hein, pour faire les grandes écoles de lutherie qui sont notamment en France. En France, il y a une très, très haute tradition. Et qui s'est vraiment accompli en plus dans le travail manuel, qui a eu un énorme plaisir même à préparer en fait ces concours. C'est des concours qui sont très exigeants, contrairement aussi à ce qu'on pourrait croire. Enfin, c'est pas du tout des voies de garage. Enfin, en tout cas, il y a des voies d'élite en fait dans ces métiers manuels. Est-ce que vous sentez, c'est un peu comme les néo-ruraux, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité, c'est-à-dire cette jeunesse qui est dressée pour la ville et les emplois du tertiaire et puis qui finalement exsangue finit avec un bac plus 4 par tous les tomber et puis se retrouver soit à la campagne, soit dans des métiers manuels dans lesquels ils trouvent des réalisations personnelles qu'on avait oubliées. Est-ce que vous sentez comme un mouvement d'époque, de génération, ou est-ce que non, ça reste exceptionnel ou marginal?
Bah, si vous voulez, on voit aussi, il suffit de voir le nombre de reconversions professionnelles aujourd'hui qui se font. Beaucoup de reconversions. Alors des fois, bon, on était fleuriste, on devient chaudronnier, mais on voit de plus en plus effectivement de gens qui trouvent tu te sens, c'est, excusez-moi, on est sur Radio Courtoisie, mais je vais me permettre cet anglicisme, mais vous savez, c'est bullshit job du tertiaire qui aujourd'hui crée une certaine frustration et une perte de sens pour certaines personnes. On les retrouve dans les Greta aujourd'hui, dans des reconversions de boulanger, de chaudronnier. Donc oui, il y a cet effet-là. Puis rappelez-vous, après le Covid, vous avez eu 800 000 démissions. C'est ce qu'on avait appelé la grande démission sortie de Covid. Et pour beaucoup, il y a eu une remise en question du sens au travail. Est-ce que ce que je fais m'accomplit? Donc oui, je pense qu'il y a une certaine sensibilité, oui, à faire demi-tour sur ces sujets. Oui, je vous rejoins. Oui.
Rémi Carlu.
Oui, puis moi je trouve qu'il y a eu deux événements. Il y a eu effectivement le Covid où les gens ont été confinés, donc ont dû se poser des questions un petit peu existentielles sur ce qu'ils faisaient de leur vie jusqu'à présent. Et puis il y a eu aussi Notre-Dame, qui à mon avis était très très importante, puisqu'on a eu un chantier d'exception au XXIe siècle qui mettait en avant l'artisanat d'exception. Vous, quel regard vous portez sur ces rénovations de Notre-Dame qui a mis en avant un artisanat d'exception? Comment vous l'avez reçu? Est-ce que ça fait effectivement une belle publicité au métier manuel?
Je pense qu'en fait, c'est la meilleure expression opérationnelle de mon livre. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, avec les moyens du XXIe siècle et du XXIe siècle, on a, à travers la tradition des métiers et des savoir-faire, reconstruit une cathédrale qui avait des centaines d'années avec les moyens technologiques qui sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, en 5 ans, on a réhabilité un bâtiment historique extraordinaire qui avait été à l'époque fabriqué en beaucoup plus longtemps, si vous voulez. Pour autant, on ne s'est pas séparé de la tradition. Donc c'est vraiment, en fait, si vous voulez, c'est la quintessence de ce que j'explique dans le livre. C'est-à-dire qu'à un moment, tradition et économie, c'est la voie vers l'excellence. Et aujourd'hui, sans aller trop loin, on nous pousse à l'innovation, à l'excellence économique. Et ça passe aussi, en fait, par cette capacité à retourner dans nos racines de notre identité économique pour retrouver aussi cette capacité à exceller dans ces métiers-là. Et Notre-Dame, c'est un vrai exemple.
Je reviens sur ce mépris, en effet. Alors, même si c'est une tendance qui change un peu, mais ça reste, c'est pas encore, il n'y a pas un retour énorme aux métiers de la main ou aux métiers qui ont du sens. C'est vrai qu'on va plus dire aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas entendu ça, moi, du côté de mes enfants, que un BTS c'est une voie de garage ou faire une formation de luthier ou de, voilà, c'est, non. Ils disent plus ça. Mais est-ce que vous, à titre personnel, vous avez rencontré ce mépris ou cette qui peut passer d'ailleurs par une interrogation? Ah bon, tu fais ça? Est-ce que vous l'avez vécu vous-même?
Moi, je l'ai vécu à travers le système scolaire, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, fin de troisième, en fait.
Ouais, mais
Moi,
après,
j'ai eu
vous,
la...
après, non, une fois que vous étiez rentré dans la filière, vous avez plus de.
Ah, si, si, bien sûr. En fait, quand vous sentez bien, en fait, que vous faites pas partie d'une élite, une élite du travail, vous faites pas partie de l'élite économique. Mais ça, c'est un sujet que je trouve fondamental. Enfin, vous soulevez quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, sur lequel j'essaye d'écrire aussi. Il y a deux sujets, en fait, sur la revalorisation des métiers. Et c'est vrai qu'on se, il y a un regain, mais il est fébrile encore, hein. Il y a pas une volonté de partir dans la chaudronnerie. On double pas les classes. Enfin, voilà. Par contre, tous les ans, on double les classes en école de commerce. Tout le monde veut faire avocat. On remplit les facs de droit. Je pense qu'il y a un tabou sur lequel on veut, enfin, il y a un tabou, quoi, dont on ne veut surtout pas parler. Malgré les grandes communications, les grandes campagnes de com pour attirer les jeunes, c'est la question des salaires. Parce qu'en fait, pourquoi, moi je l'ai vu dans mon entourage, pourquoi les métiers qui reviennent tout le temps, en fait, si vous voulez, quand on a l'impression qu'on va choisir une voie d'excellence, on choisit avocat, médecin, architecte, etc. Pourquoi on choisit ces métiers?
C'est vrai qu'on n'est pas au SMIC dans ces métiers.
Il y a deux choses, les salaires et le prestige.
Bien sûr.
Parce que quand vous arrivez dans une soirée, ben oui, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en tant que parent, on a le souci de se dire, demain, il faut que mon enfant il gagne un peu de prestige et surtout qu'il puisse remplir le frigo le mieux possible. Donc de toujours dire voilà, effectivement, ces métiers, ce sont des beaux métiers, mais moi je vais pas dire le contraire, je les ai pratiqués et j'en suis passionné. Mais la question de remplir le frigo, je vais revenir sur la pyramide de Maslow. Pour ceux qui connaissent pas, le plus important dans les besoins humains, ça reste les besoins physiologiques. On va tous, le matin, on se lève tous, dans un premier temps déjà, pour remplir notre frigo. Donc évidemment qu'on va aller vers des métiers qui nous permettent de remplir le mieux possible ce frigo. Donc et ça, c'est, si vous voulez, c'est un tabou qu'on a du mal à lever encore.
Rémi Carlu.
Oui, je suis d'accord avec vous. Comment dire, l'industrie française, l'artisanat et puis l'industrie française ont été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation, de la mise en concurrence des peuples. Et donc, précisément, le mouvement dont on parlait tout à l'heure de retour vers les métiers de la main, du retour des métiers artisanaux, ne se heurte-t-il pas finalement aux conditions économiques, structurelles et générales? Et ce mouvement pourra-t-il continuer à se développer sans changement de ces conditions économiques actuelle, c'est-à-dire la mondialisation, la libre circulation des biens, la mise en concurrence, etc., etc.
Je vous suis à 100% sur ce que vous venez de dire. À mon sens, en fait, la problématique, elle a été le mieux portée par Jean-Luc Gréaume, qui était ancien consultant en économie pour le MEDEF et qui était un fervent défenseur d'un protectionnisme réfléchi. Il expliquait très bien, bien avant qu'on s'en aperçoive, que mettre en concurrence nos pays occidentaux, dont le système social est extrêmement lourd sur le plan financier, extrêmement lourd sur le plan financier, mettre ces pays en concurrence avec des pays du tiers-monde ou des pays qui étaient en voie de développement avec un système social qui pour alors soit qui était en voie d'émergence, soit inexistant, allait forcément créer des conflits et des compressions économiques. Vous voyez, si vous prenez le métier de la métallurgie, que je connais assez bien, vous avez les salaires qui augmentent mécaniquement dans les pays occidentaux. De l'autre côté, vous avez une compression des prix qui tire vers le bas vis-à-vis de la concurrence, par exemple, avec la Chine. Voilà. Donc vous avez quand même une compression qui aujourd'hui ne permet pas de pouvoir faire de monter les salaires à la hauteur où ils devraient être, très concrètement. Parce que quand vous êtes en concurrence directement avec la Chine, avec un SMIC à 400 ou à 500 euros, et que votre acier, vous le sortez en coût de revient à, je dis une bêtise, à 50 centimes, et que eux, c'est leur prix de vente, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, il y a des compressions économiques, et derrière, il est évident que nos salariés dans les industries subissent aussi ces compressions économiques.
Et c'est pour ça, pourquoi vous disiez tout à l'heure qu'il y avait le sujet tabou étant le statut social, évidemment, mais aussi les salaires, parce que naïvement, je pensais que on pouvait être dans un marché inversé, étant donné que l'école n'encourageait pas à des élèves aller dans ces voies-là. On pouvait se retrouver avec beaucoup de postes à pourvoir et peu de candidats. Et donc, naturellement, si on est dans un marché inversé, ben on attire également par le salaire. Mais vous dites que malgré ça, la concurrence étrangère fait que les prix sont quand même tirés vers le bas. Et même s'il y a moins de candidats que de postes, les salaires sont quand même tirés vers le bas.
Oui, il y a un ensemble de problématiques. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Vous connaissez très bien le sujet des charges de production qui pèsent très lourdement sur nos industries. L'écart entre l'hyper brut et l'hyper net est aussi un sujet. Vous avez des problèmes de compétitivité internationale. Vous avez, voilà, on a quand même
L'industrie
beaucoup
n'échappe pas au problème
de.
français global,
Tout à fait,
la concurrence et des
exactement.
charges.
Tout à fait, exactement. Ouais.
Alors, il y a un autre mot-clé dans votre livre, évidemment, c'est la transmission, parce que quand on pense geste, savoir-faire, évidemment, c'est la transmission. Qu'est-ce qui se perd en premier quand on ne transmet plus? Qu'est-ce qu'on rompt comme pacte ou comme tradition? Et après, est-ce qu'à partir du moment où c'est rompu, est-ce qu'on peut reconstruire?
Ça, c'est tout le sujet.
Ah, je sais bien.
La transmission, elle est au centre en fait de nos métiers, de tous les métiers en fait finalement. En fait, faut bien rappeler ce que c'est la transmission. La transmission, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 42 ans sur un métier, qui va apprendre de ses échecs et de ses réussites et de sa technique, qui va s'enrichir culturellement et techniquement sur un métier, et il va apprendre l'ensemble de son savoir en 3, 4, 5 ans à un jeune qui démarre le métier. Donc c'est une compression de tout ce savoir qui est transmis en 3 à 5 ans. Et ce jeune qui va bénéficier de cette compression de 42 ans en 5 ans, lui-même, le but, c'est qu'il découvre et qu'il exalte encore plus les compétences de ses anciens. C'est comme ça qu'on évolue, en fait, sur le plan technologique et sur le plan économique. Le but, c'est d'aller toujours plus loin sur la technique, et c'est par la transmission que cela se réalise. Et là, vous êtes en train de dire, effectivement, comment on reconstruit une fois qu'on a créé une rupture? Pour moi, la désindustrialisation, par exemple, est une cause de rupture de transmission. Ben, ça se passe comme ça se passe aujourd'hui avec l'industrie de l'atome. L'industrie de l'atome, pendant une vingtaine d'années, on a tout fait pour démanteler nos centrales nucléaires. Et puis maintenant qu'on se dit, ben, finalement, on a peut-être fait une connerie, et ben, on est en train de se dire qu'on va peut-être rappeler des anciens qui sont à la retraite, des ingénieurs qui sont à la retraite, pour former, parce qu'aujourd'hui on n'a plus les compétences. Et s'il faut reconstruire l'ensemble du catalogue de compétences de certains métiers, bah, ça peut prendre des années. C'est pour ça que j'ai aussi un slogan, moi souvent, je dis en fait, vous achèterez pas du temps. C'est-à-dire on peut mettre sur la table des milliards et des milliards et des milliards d'euros en disant oui, c'est bon, vous allez relancer l'industrie, l'industrie, l'industrie. Derrière, s'il n'y a pas les compétences, vous allez acheter des machines flambant neuves, mais derrière, si vous n'avez personne pour mettre derrière les machines compétentes, ben, ça prendra le temps que ça devra prendre quand même.
Donc ça
Voilà.
veut dire que la réindustrialisation, dont tout le monde parle ou promet depuis des années, mais on voit pas grand-chose venir, mais en tout cas ils en parlent, ça ne pourra jamais marcher si on ne reconstruit pas le savoir-faire au préalable.
Tout à fait. Ou du
Alors,
moins, c'est une obligation parallèle.
dans ces cas-là, on pourrait peut-être vous dire, oui, il y a une rupture, oui, on aura besoin de reformer des générations, mais quid alors de l'intelligence artificielle? Quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans vos métiers et est-ce que l'intelligence artificielle peut, à partir du moment où cette transmission et savoir-faire est rompue, bah, peut faire le lien, en tout cas le remplacer,
Pour
le
l'instant,
savoir-faire?
l'intelligence artificielle dans les métiers des mains, on n'en parle pas, hein. Moi, mon boucher, pour l'instant, il ne m'a pas parlé d'intelligence artificielle. Les métiers qui sont le plus impactés, on l'a vu, c'est Total qui a annoncé 30% de suppression d'emplois. À chaque fois, ils parlent de suppression d'emplois dans le tertiaire, dans la partie administrative de leurs entreprises. Je pense que le sujet de l'intelligence artificielle sur ces métiers, c'est un sujet qui risque d'impacter tous les métiers. Mais on va pas être les métiers des mains sont pas les métiers les plus impactés pour l'instant. Et je fais même, je mets un peu une pièce sur la table, c'est que justement l'intelligence artificielle, elle est en train de complètement bouleverser justement les ordres établis, justement sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les métiers, sur le prestige des métiers. Si vous voulez, on l'a vu, par exemple, les médecins avec l'intelligence artificielle, quelle va être la plus-value des médecins? On se rend compte que ChatGPT, il est capable de faire une ordonnance et un diagnostic quasiment aussi bon qu'un médecin qui a 12 ans d'études. Donc la plus-value en fait de certains métiers et le prestige qu'ils avaient va peut-être dans l'avenir avoir tendance à rétrograder, si vous voulez. J'ai peut-être pas le bon mot qui va derrière, mais c'est l'idée. De l'autre côté, on va chercher massivement des techniciens de plus en plus compétents. Les métiers des mains évoluent aussi sur le plan technologique. Alors pas forcément sur l'intelligence artificielle, vous voyez, mais par contre, nous, dans nos métiers, par exemple, de l'industrie, je pense à la chaudronnerie, il y a eu une grosse révolution il y a 12 ans, ça a été l'arrivée du découpage laser. Alors, vous voyez, on est très loin du sujet de l'intelligence artificielle, mais ça a été une pure révolution dans nos métiers. Eh ben, on cherche des techniciens qui sont maintenant dans les ateliers, non plus sur du niveau CAP Bac Pro, mais des fois même BTS, voire licence. Donc vous avez des gens qui pratiquent des métiers des mains avec des niveaux on va dire, de compétences théoriques et dits intellectuels, parce que j'aime pas ce mot, un peu plus approfondis. Donc Je pense que le sujet de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur les métiers des mains, c'est pas le sujet actuel.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Benjamin Chalut qui publie La civilisation du geste, quand le savoir-faire façonne le destin des peuples, aux éditions Eurésis. Et si nous pouvons parler métallurgie, chaudronnerie, intelligence artificielle, métier de la main et tout le tertiaire qui va disparaître, et c'est une bonne nouvelle pour une partie en tout cas, peut-être qu'on n'aura plus de sociologues bientôt, c'est parce que vous êtes sur une radio libre qui dépend de vos dons, donc vous écoutez ce petit message, vous faites un petit virement, même un gros virement, et puis on se retrouve tout de suite après.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois, Arthur de Vatrigan.
Et nous attaquons la dernière ligne droite de ce Restons courtois. Et vous savez qu'à 19h, c'est l'heure de la chronique de Romaric Sangars. Romaric Sangars qui allait se balader, se promener ce week-end du côté du marché de la poésie.
Oui, cher Arthur, nous avons beaucoup parlé ici à de nombreuses reprises du crépuscule du monde du livre, de l'industrie du livre, pourrions-nous dire. Et c'est pourquoi, après toutes ces nouvelles effarantes de chute des ventes, de Gibert qui est en redressement judiciaire, je me suis dit pourquoi ne pas aller à cette promenade rituelle du marché de la poésie, qui est un lieu que j'aime beaucoup et qui représente un peu la part artisanale de la chose. Vous verrez, mon attention a resté en cohérence avec cette émission. Puisque le marché de la poésie, c'est un petit marché qui a lieu début juin, systématiquement, place Saint-Sulpice à Paris, où des petites tentes blanches comme ça se multiplient. Chaque tente est un stand d'un petit éditeur, et on est vraiment dans le régime artisanal du livre, parce que c'est ça qui est tout à fait passionnant. Ici, il n'y a pas de grands prix, de grandes ventes, de grandes stars, ni de grands éditeurs, même si Gallimard a un petit stand. Globalement, on est vraiment dans une assemblée d'illuminés, de passionnés, d'insolites et d'originaux qui font vivre un livre parallèle qui ne fait pas des grosses ventes, mais qui produit des créations originales, scintillantes, tout à fait lumineuses et parfois, en fait, qui donnent espoir, notamment parce que l'industrie du livre, même si elle s'effondre, on peut remarquer aussi sa monomanie, sa médiocrité quand même générale, sa surproduction et le fait qu'on surproduise systématiquement un peu le même genre de livre. Or là, il y a une grande diversité dans le marché de la poésie, donc je voulais un peu vous raconter ce qui m'était arrivé de surprendre durant cette promenade, notamment sur deux stands. Le premier stand, celui des éditions 49 pages, où j'ai rencontré Pierre Polygone, cher garçon qui a participé autrefois à la revue Zone Critique, revue qui avait lancé Vrille, une petite maison d'édition qui s'est poursuivie ou qui s'est relayée en tout cas dans cette forme de 49 pages, qui est donc une maison d'édition qui produit des petits livres de 49 pages, je l'essaie de montrer voilà, à l'écran, donc des livres courts qu'on peut lire le temps d'un trajet en métro ou un RER, ce qui est une manière assez intéressante de pallier la difficulté de temps dont on parle systématiquement aujourd'hui. Les gens ont-ils encore le temps de lire un livre de 200 pages, puis qu'ils sont pris sans arrêt de cours et par des occupations diverses? Eh bien justement, n'est-ce pas une bonne occasion de relancer des formes brèves? Et moi j'aime beaucoup les formes brèves en littérature, qui sont parfois plus exigeantes, plus originales, qui tiennent plus justement sur l'artisanat, sur la forme littéraire elle-même, que sur les facilités de l'intrigue. Et cette espèce de formatage du roman de 200 pages avec une petite intrigue, etc. Et donc, cette maison a été lancée notamment avec un livre de Tom Buron, Le nom de la bataille, dont j'avais fait l'éloge dans La Correcte il y a quelques mois. Un petit livre formidable. Tom Buron est un auteur de chez Gallimard, un poète de chez Gallimard très doué, qui a remporté quelques prix et qui racontait ici son expérience de guerre en Ukraine. Donc un texte très fort, très intense, très juste. Et on trouve aussi chez 49 pages Skincare de Joy Majdalani ou La flemme de la forme de Younes Boussena, qui sont donc ces livres que m'a offert Pierre Polygone. Et Joy Majdalani, Younes Boussena sont comme Tom Buron des jeunes auteurs, puisque tous ces gens-là ont une trentaine d'années, comme ces éditeurs d'ailleurs, des jeunes auteurs prometteurs qui sont dans des grandes maisons, hein, qui, là on est chez Grasset, Gallimard ou Rivage. Et donc, il y a vraiment une idée de promouvoir une littérature originale, avec du relief, fait par des jeunes gens et préfacé même par des jeunes gens, puisque chacun de ces livres, vous voyez, sont préfacés par de jeunes éditeurs, tous passionnés. Et donc, on a ici une espèce de stratégie, je dirais presque de guérilla littéraire qui pallie l'effondrement des grosses machines dont on parle ici régulièrement. Je suis aussi allé au stand de Corlevour, la revue La Forge, chez Réginald Gaillard, qui est un éditeur tout à fait passionnant, qui est commercial par ailleurs chez Gallimard la journée et qui le soir développe une maison d'édition, les éditions Corlevour, qui font de la poésie, de la métaphysique, des portraits, enfin des choses assez exigeantes, et qui a également une revue de poésie qui s'appelle La Forge. Il avait Nunc autrefois, maintenant c'est devenu La Forge, qui est une revue de poésie qui à la fois brasse des poètes inédits et des poètes célèbres. On a ici à la fois des poètes étrangers qui sont traduits, des poètes anciens. Alors je sais bien, la poésie, on est vraiment là au summum de ce qui se fait le moins possible, du plus dégradé, du plus perdu. Il n'y a plus que dans les pays slaves où on lit encore des poètes dans le métro et où on a encore des poètes nationaux. Malheureusement, la France, qui était un grand pays de poètes, notamment au XIXe siècle, mais même autrefois, a totalement abandonné la poésie. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a aussi le fait que les formes poétiques se sont un peu effondrées, que la poésie automatique en vers libre, disant n'importe quoi, un peu ennuie tout le monde, pour aussi de bonnes raisons. Mais néanmoins, il y a des belles créations poétiques. Alors ce qui est difficile avec la poésie contemporaine, justement, c'est qu'il est difficile de trouver de bons poètes dans cette espèce d'art devenu marginal où tous ceux qui la pratiquent ne la lisent pas. Enfin, c'est un endroit très flou. Justement, je vous conseille, dans ce sens-là, d'aller vous procurer la revue de poésie La Forge de Réginald Gaillard, parce que il y a une sélection extraordinaire de poètes, et donc j'ai eu plaisir, moi, à découvrir quelques poètes que je ne connaissais pas. Je me suis dit que c'était l'occasion, en ce début de printemps, de commémorer l'effondrement du marché du livre français par quelques poèmes dits sur son tombeau qui augureraient peut-être d'une renaissance. Je vous préviens, c'est une poésie très, très épurée, très simple comme ça. En général, j'aime pas forcément ce genre de choses, mais je trouve là que c'est extrêmement réussi. Alors, c'est un poète qui s'appelle Vincent Motard Avargue. Des extraits de La Maison au Chat. Le titre est horrible, hein. La Maison au Chat, vraiment, ça donne pas envie.
Et pourtant, Marine Le Pen.
Voilà. Et pourtant, voilà, je me permets de vous lire deux poèmes de ce
allez-y, cher
de ce Vincent Motard Avargue. Je trouve ça extraordinaire. Alors, celui-ci qui s'appelle En. Oh, le soleil ou sa possibilité dans le sein de la pluie et du vent. Derrière la baie vitrée, on observe, oui, et attend. Oh, des souffles lassés du rêve perdu et du temps. Aucun son n'est lâché. On retient le tout, oui, et le sang. Moi, je trouve ça magnifique. Je vous en lis un autre.
Vous avez un deuxième ?
Oui, mais allez-y. Aussi. Que faire sinon rien faire ? Est-ce cela vivre ? Dit, resté en boule, sur son pouf. Zoï attendant immobile. Est-ce cela l'aimer ? Dit, regarder sa fin sans vouloir la voir. Toi, te sentant inutile. C'est très pur, très simple, et je trouve ça tout à fait extraordinaire. Voilà, ce qui sort parfois de La Forge. Et il y a encore des poètes français, comme il y a encore des artisans.
Ce qui est rassurant, justement, c'est qu'il y a en effet des jeunes poètes qui publient encore et qui arrivent. Alors, ça doit être assez compliqué de publier de la poésie aujourd'hui, parce que malheureusement, déjà, le marché du livre s'écroule, mais alors celui de la poésie, c'est pas les plus gros vendeurs en France.
C'est un marché de passionnés, c'est ça qui est très intéressant. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent à se faire, ce ne sont que des passionnés. C'est des très beaux livres.
Alors, où est-ce qu'on peut les trouver, ces livres, si on n'habite pas à Paris, qu'on puisse, et puis sachant que le marché de la poésie
est passé ? Eh bien, on laissera à Radio Courtoisie les références exactes. Je pense qu'on peut les trouver que par commande. Hein. Enfin, la revue La Forge, les revues poétiques, ou alors dans quelques
revues
parisiennes.
C'est de la
revue
La Forge,
revue de poésie, là c'est le numéro 7 qui vient de sortir, c'est celui de juin 2026. Et puis les éditions 49 pages, donc ce sont des petits volumes qu'on trouve, alors là qu'on trouve en tout cas à Paris dans plusieurs librairies, c'est assez bien distribué.
Merci cher Romaric, ça fait du bien d'entendre un peu de poésie et puis d'entendre des critiques positives sur de jeunes auteurs. Il y en a encore en France, le feu n'est pas éteint. Revenons à vous cher Benjamin, puisque le livre que vous publiez s'appelle La civilisation du geste. Quand le savoir-faire façonne le destin des peuples aux éditions Eurésis. Alors nous étions en train de parler de savoir-faire, de gestes de transmission, de désindustrialisation, d'intelligence artificielle. Parlons un peu de... Parce qu'il y a quelque chose que... d'étrange et de rassurant, c'est qu'il existe encore dans ces métiers-là, dans ces formations, dans cette transmission, des compagnons. Compagnons notamment du Tour, les compagnons du Tour de France, par exemple. Alors vous-même, est-ce que vous avez été compagnon ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ce qu'il se passe ? C'est quelque chose de très ancien, qui se perpétue encore, qui a des règles, une hiérarchie. Alors c'est tout ce que la France déteste aujourd'hui. Et ce qui est assez rassurant, c'est que ça continue à exister. Racontez-nous.
Alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire les compagnonnages. Par contre, j'ai travaillé pour quelqu'un qui l'a fait, pour un chef d'entreprise qui lui en était issu en métallerie. Et pendant un peu plus de 2 ans, j'ai été chargé d'affaires dans le patrimoine. Donc, on s'occupait justement de restaurer les garde-corps, les grilles de défense et tout ce qui touchait au métal dans nos monuments historiques. Donc, oui, c'est un sujet que bon, je peux parler vu de l'extérieur, mais un extérieur très proche. Oui, le compagnonnage, c'est vraiment la dernière école de formation où on inscrit la formation dans le temps long, si vous voulez. C'est-à-dire, et dans le temps long, et dans la complexité, dans l'effort. Enfin, effectivement, il y a beaucoup de caractéristiques du compagnonnage qui sont peut-être plus trop en adéquation avec notre 21e siècle, mais les compagnons travaillent du lundi au vendredi, le week-end ils ont encore des cours, le dimanche ils viennent pour faire de l'étude culturelle sur leur métier. C'est-à-dire que je pense chez les compagnons, on n'apprend pas seulement à être un opérateur dans son domaine. Le métier devient vraiment quelque chose à part entière, en fait, de la personne. C'est-à-dire, je suis Benjamin Chalut, mais je suis surtout chaudronnier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait partie de mon curriculum vitae, et ça pourrait presque faire partie de ma carte d'identité. On intègre soi-même tout un bagage culturel traditionnel de l'effort et de l'excellence. Et ça, effectivement, c'est vraiment un trésor encore qu'on possède encore en France.
Rémi Carlu.
Oui, dans votre essai, vous vous insurgez donc contre la figure de l'homo economicus, donc c'est-à-dire la réduction de l'être humain à une sorte d'agent économique rationnel qui serait strictement mu par ses intérêts économiques. Donc, vous insistez beaucoup pour ce qui concerne le travail, d'abord sur les lieux de travail, la figure de l'atelier, etc., et la manière dont tous ces lieux de travail ont été modifiés par les révolutions récentes, les révolutions du travail récentes. Et puis, vous insistez aussi sur la dimension sociale du travail. Donc, l'idée que c'est aussi une communauté de travail. Vous citez beaucoup le sociologue allemand Ferdinand Tönnies, que moi j'aime beaucoup. Justement, quel est votre état des lieux sur les grands changements du lieu de travail et de l'organisation sociale du travail ces 50 dernières années, disons ? Et surtout, comment pourrait-on penser à un nouveau monde du travail demain en s'inspirant peut-être du compagnonnage, peut-être des anciennes guildes, pour répondre à ces questions, puisqu'on parle souvent de réindustrialiser la France, mais si c'est effectivement pour finir comme Charlie Chaplin a tourné autour des engrenages, ça fait pas non plus rêver, quoi. Donc, comment imaginer une réindustrialisation 2.0 qui soit à la fois soucieuse de la personne en tant que telle et pas simplement de grandes variables macroéconomiques.
Tout à fait. J'en profite pour, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, de faire une petite digression. Ne pas oublier que le compagnonnage, il a très fortement subi la première révolution industrielle où on a fait de l'employé de masse. Hein, c'est-à-dire on s'est mis à embaucher à tour de bras des ouvriers pour mettre dans des usines. Le corporatisme, on va dire, du compagnonnage, il a subi très fortement socialement en fait cette révolution parce qu'ils avaient une maîtrise, on va dire, et du concept traditionnel de leur métier, mais aussi de tout l'environnement social. Si vous voulez, les premières caisses d'assurance du travail, etc., elles n'arrivent pas, c'est pas la gauche qui nous l'amène. Hein. Le compagnonnage travaillait déjà sur ces sujets-là. Un jeune qui est rentré au compagnonnage pré-révolution industrielle, il avait déjà Il est pris en charge par la corporation. Voilà, c'était juste pour faire une digression. Oui, effectivement, le travail, moi, à mon avis, c'est la chose qui a été le plus abandonnée aujourd'hui. C'est que la mondialisation, vous pouvez être partout et ailleurs en même temps. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette capacité à croire que une entreprise qui est dans mon petit quartier Auvergnat, eh ben, je peux la prendre comme un objet, vous savez, comme un bol, comme une table, et puis je peux la déplacer, puis la mettre en Chine. Et puis ça n'a aucune répercussion parce que quelque part, ce qu'on fait en Auvergne, pourquoi on ne peut pas le faire en Chine? Et en fait, on n'a pas compris en fait qu'une entreprise, elle était enracinée très souvent dans des filières qui sont issues des fois de dizaines, voire de centaines d'années de savoir-faire, et que ces entreprises, elles bénéficient économiquement, donc sur le plan financier, de tout une compétence, toute une transmission qui, elle, pour le coup, est sociale et anthropologique. Je vous donne un exemple pour sortir de l'abstrait. Moi, je suis tiernois. Tiernois, il y a un gros bassin de la métallurgie et du couteau. La ville a prospéré socialement sur l'industrie du couteau. Lorsqu'on a délocalisé les entreprises du couteau à l'étranger, ça a été l'hécatombe totale sur le plan social. Parce que vous retrouvez, moi j'ai travaillé dans une entreprise, pour vous donner un deuxième exemple, où dans la même entreprise, vous trouvez le père, le fils et le grand-père. L'oncle et la tante, et même des fois la mère, on peut retrouver des fois des générations dans les mêmes ateliers, dans les mêmes entreprises. Et on se transmet sur le plan local les métiers et toute une culture métier qui va avec. Et souvent, ce que je vois aussi, c'est que dans ces entreprises qui sont empreintes de culture et de tradition et surtout de temps long sur le plan économique, ces gens-là sont fiers de travailler dans ces entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une fierté de posséder en fait un bagage du savoir-faire. Voilà. Ils ont cette fierté de faire partie de ce maillon. Voilà. Je pense qu'ils sont plus fiers de travailler dans certaines sidérurgies qui sont là depuis deux, trois siècles que de travailler chez Amazon. Voilà. C'est pour vous donner un peu le comparatif. Comment on peut projeter demain l'industrie et comment on peut imaginer l'économie demain? De toute façon, la mondialisation, qu'on le veuille ou non, et que ça fasse plaisir ou pas à nos économistes ultralibéraux mondialistes, je pense que la mondialisation, elle est refusée par tous les peuples du monde. C'est pas que l'Occident, c'est tous les peuples du monde. Et on voit très bien en fait les causes, les problématiques sociales qu'elles ont entraînées avec un déracinement en fait de l'entreprise. Et je pense que revenir en fait à l'enracinement vis-à-vis des savoir-faire, c'est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple comme quoi on peut bénéficier d'un savoir-faire local, traditionnel, historique, et de l'autre côté créer de l'innovation et de l'économie. Par chez nous, on avait des champs de chanvre. Pendant des années, on a cultivé le chanvre, on a arrêté de cultiver le chanvre, et il y a une entreprise qui a relancé la culture du chanvre pour créer des panneaux isolants pour le bâtiment qui sont extrêmement performants sur le plan énergétique. Et bien, vous bénéficiez d'une tradition locale depuis des siècles et vous la revalorisez pour créer de l'innovation. Dernier exemple, pas loin de chez nous, à Ambert, vous avez à Ambert, la tradition du tissage et de la tresse. Et ben, vous avez une entreprise qui est une des, si ce n'est la leader mondiale du tissage du câble de haute qualité pour du câble sous-marin, etc. Ça fait des millions de chiffres d'affaires et ils tressent du métal pour l'industrie, mais ils se sont basés sur un savoir-faire historique qui est le savoir-faire du tressage. Donc, comme quoi, en fait, toutes nos industries, elles ne sont pas nées sur certains territoires par hasard. Hein, elles sont issues, en fait, d'années de culture économique et sociale.
Romaric, son garçon.
Oui, bah, c'est pas vraiment une question, c'était une réflexion que m'inspire notre conversation, mais bien sûr, vous pourrez sans doute rebondir dessus avec votre propre perspective. Ça me faisait penser notamment à ce que disait Hector Holbach, qui fait des cours de peinture publique qui ont un grand succès, notamment à Paris, et qui expliquait par exemple que les gestes de la peinture ne se transmettaient plus, puisqu'on n'apprenait plus dans les écoles d'art les gestes de la peinture, et qu'il y avait des manières de faire, hein, c'est bête, mais par exemple de reproduire un tissu, de rendre une main crédible. Il y avait fallu parfois des siècles de travail et d'héritage pour qu'on arrive, parce que finalement au fil des siècles, la peinture était de plus en plus précise. Il y avait vraiment une tradition et que ces gestes étaient en train de se perdre et qu'on ne savait plus peindre, même comme les anciens, puisqu'en fait on ne l'apprenait plus. Et d'une manière plus générale, il y a beaucoup d'écrivains au 19e ou au 20e siècle qui s'inquiètent de l'écart que les artistes modernes, surtout à partir du 20e siècle, prennent avec la civilisation du geste, justement. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins une attention au geste, et alors depuis 50 ou 60 ans, on est encore plus dans le triomphe du concept, ce qui fait que, et c'est valable autant pour la peinture là où c'est le plus visible, et où carrément il n'y a plus de peinture, et que maintenant il y a juste un acte, une performance qui va être, voilà, qui est une espèce de pur concept, il n'y a plus du tout de geste et d'objet, et c'est valable aussi, je pense, en littérature, où il y a un désintérêt pour le style et pour la forme, il s'agit de plus en plus uniquement de témoigner de quelque chose, de faire un coup, de dénoncer, c'est-à-dire d'être dans un propos pur. Ce qui intéresse les gens, c'est soit un document, soit un propos abstrait, et pas une forme, et qu'il y a un lien entre les deux. Donc, enfin, tout ça pour rebondir à ce que vous disiez, et il me semble qu'il y a aussi que la déconsidération du travail manuel a en fait beaucoup, sur un autre plan, un impact négatif sur le travail créatif et intellectuel lui-même, dans sa part justement formelle. Alors voilà, je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, mais moi, enfin voilà, ça m'inspirait beaucoup ce genre de réflexions qui ont hanté les dernières décennies.
Oui, complètement. Je vous rejoins. Moi, je prône même dans le livre un retour à la. Alors, je pense que ça va vous toucher, un retour à la poésie de l'industrie, une poésie du travail. En fait, ce qu'on retrouve, on parlait tout à l'heure des compagnons, quand vous vous plongez en fait dans les ressources historiques des compagnons, c'est que chez les compagnons, il y a un esthétique du métier. C'est-à-dire, ça va au-delà juste de ce qu'on fabrique. On porte en soi en fait cette esthétique. Vous regardez comment étaient habillés les compagnons au 18e, 19e siècle. Ils sont en costard cravate. Nos barman, ils étaient habillés en chemise blanche, cravate noire. Voilà, il y a un esthétique du métier. Vous alliez chez nos bouchers, ils étaient cravate rouge, chemise blanche, tablier rouge, et ils avaient leur petit béret à carreaux rouges, si vous vous rappelez. Il y a un esthétique du métier, il y a un esthétique de la culture métier, et effectivement, cette poésie en fait du travail, on la perd un peu. C'est ce qui donnait aussi cette forme de fierté, hein, ce prestige du métier. On le retrouvait. Je vous rejoins complètement.
L'esthétisme est en train de me perdre. Rémi Carlu.
Oui, non, je conçois parfaitement ce que vous venez de dire. C'est le passage ce que j'appelle le passage de l'état ou du métier à la profession. C'est-à-dire qu'avant, ouais, c'était vraiment quelque chose qui était parti de notre identité en tant que telle. Et le jour où c'est devenu un gagne-pain et dont on pouvait échanger parce qu'il suffisait de gagner du pain, on a perdu au passage toute la dimension existentielle, disons, que charriait le travail, pour avoir un vrai sens du travail. Moi, j'ai une autre question, peut-être non, on a encore un peu de temps. Non, vous défendez, donc nos auditeurs l'ont compris, vous défendez une conception enracinée, traditionnelle du travail, et en même temps, vous êtes pas du tout, vous fermez pas du tout les yeux aux implications, disons, du monde économique moderne et à une forme de modernité. Et vous défendez notamment, dans votre ouvrage, alors je crois que c'est une citation, vous me corrigerez, une robotisation totale des tâches purement mécaniques et parallèlement une renaissance d'ateliers à fort savoir-faire humain. Alors comment conjuguer ces deux éléments qui peuvent paraître contradictoires? À quoi pourrait ressembler votre monde économique idéal, disons?
Ouais. En fait, je pense qu'à un moment, il va falloir, c'est un cri du cœur vis-à-vis de certaines personnes qui travaillent autour de l'économie, il va falloir sortir d'un conservatisme intellectuel qui voudrait qu'on retourne en fait à la forge, au marteau et au soufflet, Et de l'autre côté, une utopie futuriste exaltée par l'intelligence artificielle qui bouleverse absolument tout. Presque l'intelligence artificielle, elle va faire votre pain. Je pense que, il faut vraiment trouver un juste milieu au milieu de tout ça et retrouver un peu de pragmatisme et de réalisme au milieu de toutes ces injonctions aujourd'hui qui nous sont faites, tant d'un côté que de l'autre, qui sont une réaction en fait face à un monde qu'il faut réfléchir. La taylorisation, qui est née du 19e siècle et du 20e, enfin, et courant 20e siècle, elle a segmenté les tâches. Une bouteille de Volvic, si vous voulez, elle est standardisée. Et il n'y a pas de personnalisation du produit. Donc, pour autant, on aura toujours besoin de bouteilles pour boire de l'eau. Et des produits comme ça, je peux vous en donner à l'appel. C'est-à-dire que des fois, certaines personnes, j'ai encore écouté dernièrement un économiste qui expliquait, on est sur la fin du taylorisme. Ben, c'est faux. On continuera à avoir une forme de taylorisme sur des métiers de manufacture, où on a du produit standardisé, sur lequel on ne peut pas se passer. Et moi, je dis à un moment, il faut sortir aussi de la déshumanisation de l'homme dans ces entreprises-là. Qui sont effectivement, et ça c'est une analyse de Marx et qu'on ne peut pas lui enlever, c'est le concept d'aliénation. Quand vous êtes vous rappelez des temps modernes de Chaplin, quand vous boulonnez tous les jours le même boulon, et à un moment il y a une forme de déshumanisation, et ça c'est une réalité. Et là on a une opportunité, c'est l'intelligence artificielle et la robotique pour sortir les hommes, l'homme avec un grand H, de ses ateliers. Voilà. Mais maintenant, de l'autre côté, ça nous donne une deuxième opportunité. C'est que nos métiers ils deviennent de plus en plus techniques et il y a une recherche de plus en plus technologique avec une recherche d'un mélange chez les Grecs, de praxis et de poésie, c'est-à-dire de réflexion et en même temps d'être capable de fabriquer. Je vous ai dit tout à l'heure, nos métiers, ils deviennent tellement techniques que maintenant, on n'est plus seulement des gens qui travaillent de leurs mains.
Bien
Il y
sûr.
a vraiment toute une réflexion dans les métiers. Et de l'autre côté, vous avez un monde qui se métamorphose et qui tend à aller vers la personnalisation du produit et un retour à moi, ce que j'appelle au projet ou à l'œuvre. Et ben, il faut prendre aussi l'opportunité de ce sujet-là. Donc, et pour le coup, moi, je vois des entreprises qui extraordinaires, dont une qui est dans mon bassin clermontois. Ils ont une méthode, on va dire, standardisée, mais les produits, de par les industriels qui veulent quelque chose de plus en plus proche de ce qu'ils ont besoin techniquement, vont fabriquer des pièces de moins en moins standards sur des processus qui sont standards, et de ce fait, ben, ils commencent déjà à travailler sur un mélange homme-machine avec une interaction entre un savoir-faire humain et une capacité à assister par IA et par ordinateur de la fabrication. Et on pousse techniquement le produit. Donc, pour moi, le monde de demain, il tire plus vers ça, si vous voulez. Mais de l'autre côté, votre bouteille de Volvic, elle continuera d'être une bouteille de Volvic. Et pour le coup, moi, je suis pour qu'on robotise le plus possible.
Merci beaucoup, Benjamin Chalut. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Je rappelle votre livre, La civilisation du geste, quand le savoir-faire façonne le destin des peuples, aux éditions Eurésis. Et j'annonce également le prochain, déjà prêt, Métallurgie et dépendance, toujours aux mêmes éditions. Je rappelle également le livre de Michel Fayade, Après la guerre. Chers amis, nous on se retrouve la semaine prochaine. Demain, c'est Marc Hainaut. À bientôt.
Ça suffit maintenant!